Mesdames, Messieurs.
Quel genre d'histoire ?
Des histoires.
Et après ?
537 représentations.
La vie est roman, c'est différent.
Quatrième et dernier volet de cette indiscipline pliée en quatre à l'occasion du festival Les Musiques, une programmation du GMEM, Centre National de Création Musicale. On va aujourd'hui s'intéresser aux nouvelles technologies du son, de l'audiovisuel, observer comment elles interviennent dans le processus de création des compositeurs et dans les dispositifs scéniques qu'ils proposent au public des musiques d'aujourd'hui. Pour commenter les évolutions du multimédia et de l'interactivité, deux artistes à l'affiche du festival, Cécile Guigny et Jean-Baptiste Barrière. Bonjour.
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 Multimédia, hypermédia, rich media, ces termes aujourd'hui banalisés et accessibles au grand public, sont malgré tout assez récents, tout comme celui d'ailleurs de musique électronique. On aurait presque tendance à oublier le rôle essentiel joué par deux structures, françaises d'ailleurs, dans l'invention et l'expérimentation des formes contemporaines de la composition musicale, à savoir le GRM et l'IRCAM. Jean-Baptiste Barrière, peut-être quelques mots en introduction sur le rôle de pionnier joué autrefois et sans doute encore aujourd'hui par ces organismes, peut-être plus particulièrement l'IRCAM, puisque je crois que vous y avez travaillé de 1981 à 1998.
Oui, pendant 17 ans donc. Le rôle des institutions était beaucoup plus évident, évidemment, au sortir de la guerre, puisque le GRM est né, grosso modo, en 1948. Ça ne s'appelait pas le GRM à l'époque, c'était un département du service de la recherche, dirigé donc par Pierre Schaeffer. Les institutions étaient évidemment au cœur de cette idée de recherche musicale, et l'expression de recherche musicale est née dans ce contexte particulier. Les technologies, les nouvelles technologies de l'époque étaient totalement inabordables, et pour les mettre en œuvre, même pour les concevoir, souvent c'était des machines qui étaient réalisées à un exemplaire. C'était vraiment un travail d'ingénieur qui travaillait de manière très étroite avec des compositeurs, des artistes. Eh bien, il fallait des institutions. L'IRCAM est né nettement plus tard, en 77, presque 30 ans après le GRM et le service de la recherche, donc. Là, il s'agit de complètement autre chose. C'est le moment où l'informatique commence à devenir quelque chose d'assez stratégique toutes sortes de tâches, puisque quelque temps après la naissance de l'IRCAM, on va voir arriver les ordinateurs personnels. Nous amène à la situation présente aujourd'hui, où toutes ces technologies sont très largement banalisées, très largement accessibles à tout le monde, et où par conséquent le rôle des institutions change, devient totalement différent. C'est-à-dire, pour garder une nécessité, elles doivent redéfinir leur mission, et je crois que pour faire le lien justement dans cette trajectoire du service de la recherche devenu le GRM en passant par l'IRCAM et pour arriver à la situation d'aujourd'hui, ce qui reste pertinent, c'est cette notion de recherche musicale, qui n'est pas la recherche scientifique, qui a ses propres protocoles, mais qui, en tout cas pour moi, doit s'en inspirer en termes de la rigueur, du sérieux méthodologique que ça représente et de la volonté de travailler avec des préoccupations communes sur des problèmes qui sont des problèmes cependant tout à fait individuels. Les problèmes des individus, des artistes au départ sont des problèmes éminemment personnels. C'est comment réaliser une œuvre. Eh bien, les institutions, elles, cherchent des solutions globales, des solutions communes à ces problèmes-là. Et ce qu'ont pu apporter ces structures dans le passé et ce qu'elles peuvent encore apporter aujourd'hui face à l'abondance technologique, à cette liberté. C'est un regard structuré, un regard éduqué, une connaissance, plutôt une série de connaissances et de points de vue qui permettent aussi de prendre une certaine distance par rapport à la technologie, de ne pas être totalement, en quelque sorte, omnubilé et emporté par la technologie plutôt que utilisant la technologie au service d'un projet.
IRCAM a accompagné de nombreux projets de création, mais a aussi développé de nombreux outils, aussi bien de composition que de traitement du son. Peut-être quelques mots sur ces innovations qui sont sorties de ces laboratoires.
Bon, ça prendrait des heures de faire la liste exhaustive de tout ça. Je ne voudrais pas trop insister sur les outils. Les outils sont importants, mais c'est la partie visible de l'iceberg. Encore une fois, ce qui est important dans une structure comme l'IRCAM aujourd'hui, c'est la connaissance scientifique à partir de problématiques musicales qui se sédimente à travers les années et qui devient un corpus très très important dont une partie devient manifeste et visible et accessible à travers les outils, mais qui existe bien au-delà des outils. Et c'est pourquoi il est encore intéressant aujourd'hui, même si les outils sont disponibles, les outils logiciels sont pour beaucoup sont aujourd'hui largement disponibles, y compris gratuitement, à travers les réseaux, à travers les licences GNU, à travers toutes sortes de protocoles qui permettent de distribuer ces outils et les connaissances qui vont avec. Mais néanmoins, il y a toutes sortes de choses qu'on ne peut pas, en tout cas pas facilement, apprendre seulement avec les outils. Il faut les apprendre au contact avec les personnes, avec les hommes, et en particulier avec les chercheurs qui représentent cette mémoire et cette capacité de prendre un petit peu de distance par rapport à un problème, quel qu'il soit, et de renvoyer en miroir, comme dans une partie de tennis ou dans un jeu... où tout le monde gagne, les idées, les problématiques, les questionnements qui rebondissent de manière circulaire entre tous les partenaires. Reste effectivement à mettre tout ça en forme pour que ça puisse profiter à tout le monde, et ça peut devenir notamment un outil pédagogique pour comprendre la composition en composant, ce qui est certainement la meilleure manière, après tout. C'est certainement un des défis de la recherche et du développement à l'IRCAM dans les années à venir.
De ce que vous venez d'évoquer, de ce que je disais en introduction de cet entretien, l'informatique musicale s'est aujourd'hui démocratisée, on pourrait presque même dire banalisée. Fini les studios laboratoires menés par des ingénieurs et des chercheurs. Aujourd'hui, un ordinateur, une carte son et trois logiciels permettent à monsieur et madame tout le monde de composer et de mixer dans son home studio. Peut-être un commentaire sur cette pratique généralisée des home studios et sur la musique qui en sort.
Je peux parler d'INSEE. Justement, c'était... je vais parler de l'application d'un procédé, c'est-à-dire qu'INSEE, c'était une musique écrite en 64 qui est dérivée d'un premier procédé de boucle de bande manipulée sur magnétophone. Donc quelque part, on avait une démocratisation, c'est-à-dire une personne va chercher avec son magnétophone et une technique. Moi, ce qui m'intéresse énormément donc les possibilités multimédia, ce sont les transferts, ce sont les translations que l'on peut faire. Et là, à travers PlayINSEE, c'était toute ma problématique, c'est comment jouer INSEE aujourd'hui, sachant que Riley l'avait appliqué un procédé technique en 64 à un ensemble instrumental, à des êtres humains. Aujourd'hui, je fais une translation, c'est-à-dire que je m'intéresse toujours aux êtres humains. Ce sont des non-musiciens qui vont jouer tout en respectant profondément le procédé d'une pièce. Ce que je souhaitais mettre en valeur là, c'était le talent du compositeur et aussi le respect de l'interprète.
Un talent du compositeur qui n'est pas forcément partagé par aujourd'hui tous les home studistes. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une concurrence entre des compositeurs du talent de Terry Riley et puis d'autres compositeurs peut-être un peu moins expérimentés, ce que Jean-Baptiste Barrière tout à l'heure évoquait sur la nécessité d'un accompagnement, d'une pédagogie peut-être qui manque un peu à l'égard de certains pour pratiquer véritablement la musique et ne pas en faire un simple bouclage de samples avec une application d'effet.
Oui, tout à fait. En fait, c'est par exemple, moi, j'ai abordé un certain nombre de musiques répétitives par la démocratisation et de l'écoute. Mais justement, c'est là où je reviens au centre de création musicaux et au festival, tel que le festival de musique. Ce sont des lieux où qui transportent la mémoire, qui transportent tout le savoir. De compositeurs qui essayent de le transmettre. Donc à travers Play in C, quand je parviens à faire jouer et à faire comprendre le procédé musical à un non-musicien, quand je lui permets de comprendre ce qu'est in C, que ce n'est pas forcément un produit fini, enregistré, que l'on va acheter et que c'est encore autre chose, là, moi, j'ai gagné. C'est Play in C, c'est comment on joue cette pièce aujourd'hui.
Jean-Baptiste Barrière.
Oui, je pense que c'est une question très importante. Personne ne peut se plaindre de cette démocratisation. Elle profite à tout le monde. Tout le problème, si on peut dire, si on essaie de prendre un petit peu de distance, c'est que ce ne soit pas un marché de dupes. C'est-à-dire que cette démocratisation n'aboutisse pas à une espèce de démagogie, qui est évidemment une démagogie marchande. C'est-à-dire, achetez tel ordinateur, achetez tel logiciel et vous êtes créateur automatiquement. Alors, il y a un peu de vrai dans tout ça, mais c'est pas le tout de la question. Et si ça aboutit à une espèce d'ouverture artistique qui permet à quelqu'un de s'exprimer, de se développer artistiquement, c'est très bien et c'est fantastique. Si au contraire, c'est quelque chose qui renferme la personne sur elle-même et qu'elle a l'impression d'être absolument géniale et qu'elle reste bloquée devant sa machine comme sur des jeux vidéo, à ce moment-là, c'est extrêmement dangereux. On peut bien entendu discuter tout ça, et là j'y vais, assez brutalement. Il faudrait raffiner tout ça, mais néanmoins c'est quand même ça l'enjeu. C'est-à-dire que pour moi l'enjeu de la démocratisation, ça ne doit pas être une fermeture de l'esprit vers toutes les formes de la création. Ça doit être au contraire une manière de se réapproprier la création et partant d'être quelque part aussi plus préparé à aller à la rencontre d'autres créateurs, que ce soit des créateurs amateurs ou que ce soit des créateurs professionnels, et d'être plus à même de comprendre leurs propositions artistiques, parce qu'on aura fait soi-même une partie du chemin et qu'on aura réalisé par soi-même un certain nombre de choses dans cette pratique. Donc ça, c'est le véritable enjeu. Le risque, aussi, j'ai parlé du risque du point de vue, en quelque sorte, de l'utilisateur de la démocratisation, mais il y a aussi le risque de l'autre côté, c'est que, une certaine musique s'invente et les institutions considèrent qu'elles sont dédouanées, en quelque sorte, de répondre à un certain nombre d'exigences qui étaient assez claires de par le passé. C'est-à-dire, effectivement, d'être ouvertes, etc. Donc, le même risque de fermeture peut se produire au niveau des institutions. Elles peuvent être en situation de se crisper et de dire, bien, puisque n'importe qui peut effectivement télécharger des logiciels gratuits avec son PC haché dans une grande surface, etc. Nous pouvons nous concentrer à l'essentiel et à faire notre propre truc de notre côté. Eh bien non, je pense qu'au contraire, les exigences de cette démocratisation sont encore plus grandes sur les institutions. Elles doivent encore plus formaliser leur action et leur discours et leurs propositions pour que celles-ci soient accessibles au plus grand nombre d'une manière qui soit intéressante.
Cette création, elle n'existe que pour ceux à qui elle se destine, à savoir le public. Aujourd'hui, au-delà des festivals comme celui proposé par le GMEM, c'est bien souvent dans les galeries et dans les musées d'art contemporain que les installations multimédia déploient leur interactivité et rencontrent leur public. Un rôle nouveau, une économie nouvelle. Comment financer aujourd'hui ces formes nouvelles de la création? La commande publique est-elle indispensable? Comment se structure ou se transforme le marché de l'art multimédia?
Je pense que la question, c'est comment est-ce qu'on vit en faisant des offres comme celle-là, et comment est-ce qu'on produit et réalise, comment on développe l'économie qui permet de développer des œuvres comme celle-là?
Aussi bien pour les compositeurs d'ailleurs que pour les lieux qui accueillent ces œuvres.
Oui. C'est un petit peu compliqué. Je crois qu'il faut aller, taper partout, à toutes les portes. Il faut en parler avec conviction. Et puis, c'est vrai que là, sur Play in 6, ce n'est pas reconnu comme une création, par exemple. Bon, c'est très compliqué. Donc, heureusement qu'il y a des fonds tels que le DICREAM, par exemple, qui réunissent des pluridisciplinarités
de guichets, suivant le terme technique qu'ils emploient eux-mêmes. De guichets, ils appellent ça. C'est pas très élégant, mais ça dit bien ce que ça veut dire.
Ah oui. Voilà, mais je crois qu'il faut aller taper partout, à toutes les portes.
Y compris auprès du mécénat?
Oui, bien sûr, sauf que évidemment, en France, comme chacun sait, on est très en retard là-dessus. La tendance internationale, c'est effectivement... vu d'ici, un rééquilibrage entre les financements privés et les financements qui viennent soit des municipalités, soit des régions, soit de l'État, enfin toutes les formes de l'État. Donc ça c'est l'orientation, et a fortiori avec les changements politiques qui sont en cours, ça va très certainement s'accentuer. Néanmoins, je pense que il faut pas se cacher les yeux, travailler sur des projets qui ne tombent pas dans des catégories claires, c'est spécialement difficile. C'est difficile pour la création en général. Je ne sais pas si les gens s'en rendent bien compte, mais il faut être tout à fait clair là-dessus. Et c'est encore plus difficile à partir du moment où on travaille sur des objets, des projets pluridisciplinaires. Après, c'est parce que précisément, on est dans un monde, spécialement en France, où les choses sont très rationnelles, cartésiennes, catégorisées. Donc quand on fait de la musique, on s'adresse aux gens qui font de la musique, qu'ils soient publics ou privés du reste. Quand on fait des arts plastiques, on s'adresse aux gens des arts plastiques, etc. Et quand on fait un projet qui mélange tout, eh bien, il y a plus nulle part où aller taper, littéralement, ou qu'une structure avec qui dialoguer. C'est vrai d'ailleurs au-delà même du financement. On parlait de l'IRCAM tout à l'heure, du GRM, etc. Mais il n'y a pas d'IRCAM de l'image, donc il n'y a pas de réciprocité institutionnelle. Il n'y a pas non plus de structure spécifiquement pluridisciplinaire pour porter des projets comme ça. Donc on est effectivement dans une situation extrêmement instable et difficile dès qu'on essaye de porter des choses comme ça. Et il faut dire les choses, la plupart des projets que les uns et les autres nous réalisons, bon, quelque part, nous les faisons vivre, nous les menons à bien, par des stratégies biaisées qui consistent à gagner de l'argent par d'autres projets qui sont éventuellement plus rentables ou en faisant éventuellement des choses qui n'ont rien à voir avec la création, qui sont des choses purement alimentaires. Donc il n'y a pas d'économie de ces projets-là, hein, sauf de très très rares exceptions. Il n'y a pas de relais institutionnel. La seule exception, on en parlait tout à l'heure, c'est le DICREAM. Le DICREAM, c'est l'équivalent d'une bourse. Il y en a un petit nombre donné chaque année. Et si vous faites un projet une année, vous ne pouvez pas en faire l'année suivante. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander deux années. Et de toute manière, les sommes qui sont en question ne permettent jamais à elles seules de réaliser le projet. Il faut trouver beaucoup d'autres financements. Donc encore une fois, tout ça, c'est à remettre à plat et à recréer. Alors, il faudrait peut-être aussi faire le lien avec la question de la démocratie, des outils dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'on est à un moment où certaines choses sont beaucoup plus faciles et beaucoup de gens, et notamment dans les institutions, dans les musées, dans les gens qui sont à des endroits stratégiques de la circulation de la création, beaucoup de ces gens-là ont l'impression que parce qu'effectivement on peut acheter un PC pour 300 euros au supermarché du coin et qu'on peut travailler avec des logiciels libres, que ça coûte plus rien tout ça. Et c'est oublier le travail humain. C'est-à-dire qu'effectivement, un artiste doit vivre pendant qu'il est en train de créer. Et pendant qu'il fait ça, il ne fait pas autre chose. Et
donc, il est quand même étonnant, en tout cas, que la transversalité, qui maintenant est chose commune dans les pratiques artistiques depuis au moins une bonne dizaine d'années, ne soit toujours pas entérinée comme telle par les pouvoirs publics et les financeurs. C'est quand même un comble et un certain, au moins un métro de retard.
Il y a eu un va-et-vient. C'est un sujet sur lequel on peut passer beaucoup de temps et ce n'est pas forcément une bonne idée, mais le ministère de la Culture, par exemple, a été dans le sens de globaliser les directions artistiques. Et puis, très récemment, on a à nouveau sectorisé, c'est-à-dire on est revenu en arrière. En fait, l'administration ne sait pas gérer ça. L'administration fonctionne par spécialité et elle est très très déstabilisée dès lors que il s'agit de travailler sur des problématiques pluridisciplinaires, parce que se pose la question de la légitimité du jugement. À partir du moment où une œuvre a plusieurs dimensions, qu'est-ce qu'on juge ? Personne apparemment ne sent compétent pour juger la totalité, mais on va juger des bouts. Et alors donc, si on juge un bout, comment est-ce qu'on rend justice à l'autre dimension, etc., etc.
Abordons maintenant, si vous le voulez bien, les œuvres que vous présentez dans le cadre de ce festival Les Musiques. Cécile Guigny, vous avez commencé à nous dire tout à l'heure quelques mots à propos de Play in C. Je rappelle que c'est une configuration interactive qui repose sur des interfaces électroniques. Peut-être quelques mots pour décrire ces interfaces électroniques et puis aussi la règle du jeu qui est proposée par la composition de Terry Riley et puis la manière dont vous l'avez interprétée, dont vous la comprenez, dont vous la laissez entre les mains des interprètes.
Alors je vais peut-être commencer par les interfaces. Donc c'est ce qui permet à toute personne de jouer. Moi je voulais absolument pas que ça ressemble à un instrument électronique de type synthé ou de type, interfaces DJ. Donc je voulais vraiment que ça ait un aspect presque tribal, proche d'un instrument traditionnel en fait. Donc là on est en chrome et noir, ce sont des tubes qui dissimulent toutes les cartes électroniques de liaison vers l'ordinateur. Et puis chaque personne dispose de la partition qui est en face de lui, qui l'aide à se repérer dans les 53 cellules qu'il joue. En fait, on a transposé par un programme informatique les principes de jeu d'INSI. Donc chaque personne, on part tous de la cellule numéro 1 pour arriver à la cellule numéro 53. et on circule à l'intérieur donc de ces 53 cellules, l'essentiel étant pour chacun de s'écouter attentivement. La beauté de l'œuvre, elle est dans l'écoute réciproque.
Et comment est-ce que vous avez mis cela en œuvre? Est-ce que vous avez travaillé avec des musiciens professionnels? Est-ce que l'œuvre est éventuellement ouverte à des musiciens non professionnels? Et à ce moment-là, comment sont-ils introduits à la complexité de cette œuvre?
Oui, en fait, on a d'abord travaillé avec des musiciens professionnels. Ensuite, des élèves de la Cité de la musique de Marseille avaient déjà répété la pièce avec leur professeur. Et des amateurs qui répétaient aussi avec nous. Donc on arrivait à des ensembles de 30 à 35 personnes, hein, 15 interfaces, 4 musiciens professionnels et des élèves musiciens. En fait, symboliquement pour le 6 mai, j'ai voulu l'ouvrir au public. Mais là, je me suis aperçue de mon immaturité, c'est-à-dire que le public doit pouvoir comprendre les règles du jeu. Donc il y a une nécessaire intégration du public dans une préparation à jouer. On ne peut pas jouer une œuvre comme ça, ça c'est sûr. Donc j'ai des outils pour aider au jeu, donc une partition qui indique, qui donne le repère. C'est-à-dire que s'il y a trop de cellules d'écart, si on est trop décalé les uns et les autres dans les cellules, on perd le fil total de la progression de l'œuvre. Donc j'ai une grande partition qui indique exactement où tout le monde en est. Et donc on se suit les uns les autres à notre... au rythme individuel aussi du jeu.
Immaturité, pourquoi? Parce qu'il aurait fallu donner des règles un peu plus impératives?
Oui, je crois que en fait, mon rôle dans Play and See, c'est si je veux le faire jouer, je dois aussi donner les règles du jeu qu'a donné Riley. Il donne des conseils très précis, ce ne sont pas des règles, ce sont des règles qu'on peut dépasser, mais il indique bien que chaque... avant chaque représentation, il faut jouer ensemble. Voilà, d'abord, je pense, pour se comprendre, voir comment on joue, identifier les cellules musicales. Et donc là, je crois que je l'ai ouvert. Voilà, j'ai voulu tenter la chose. Et puis, comme les interfaces sont particulièrement plaisantes à jouer, qu'il y a des lumières, que des petits moteurs qui font avancer de cellule en cellule, les gens le jouaient comme un, l'ont vu comme un gadget. Et donc, il me faut du temps pour préparer les gens à jouer, en fait. Donc, ce temps, on va le prendre à chaque fois maintenant.
En tout cas, c'est intéressant d'avoir une œuvre qui joue sur le ludique, si je peux dire. Et puis, je crois qu'il ne faut pas avoir de complexe. On en parlait tout à l'heure. C'est une œuvre, Play in See, qui a été jouée aussi bien par des orchestres traditionnels chinois que par des punks. Donc, sûrement, de manière encore plus distante que ce qu'il pouvait imaginer le compositeur Terry Riley au départ. Abordons maintenant la création que vous apportez à ce festival Les Musiques, Jean-Baptiste Barrière. Une création intitulée « Deux songes de Maeterlinck » d'après Bruegel. Maeterlinck, dramaturge de la fin du 19e siècle, Bruegel, peintre de la fin du 16e siècle, je crois, pour une pièce tout à fait contemporaine, tout à fait actuelle.
Deux fois dans sa vie, Maurice Maeterlinck a travaillé à partir de peintures de Peter Bruegel. Et bon, ces deux fois, c'est chronologiquement Le Massacre des Innocents, qui est une toile très intéressante, puisque c'est une transposition, ce qui était une chose commune à l'époque, de l'épisode fameux raconté dans l'Évangile selon saint Matthieu, qui prend juste deux lignes, mais qui sont extrêmement célèbres, et qui raconte comment Hérode a envoyé les soldats romains tuer tous les enfants vieux de 2 ans ou plus. Donc cette toile, Bruegel l'a adaptée pour lui-même. Il en a fait en fait une transposition à son époque. Son époque, c'est l'époque de Charles Quint, c'est les Espagnols qui dominent l'Europe. Peter Bruegel est lui bien sûr en Flandre. Et il décrit ce massacre des innocents dans un village des Flandres sous la neige. Donc une transposition qui est tout à fait surprenante, et qui est d'autant plus surprenante qu'effectivement cette toile, comme je le disais, est très politique, puisqu'il l'a peint pour lui, elle n'a jamais été montrée. Elle est aujourd'hui dans le musée d'art de Vienne. Bon, et tout ça nous paraît complètement inimaginable quand on regarde la toile, mais il faut retransposer tout ça dans le contexte particulier. Alors, bon, ce que fait Maeterlinck, il avait à peine 20 ans à l'époque quand il écrit ce texte. D'abord, c'est son premier texte publié. Et c'est de littéralement voyager à travers la toile et nous décrire la toile. C'est-à-dire, il s'agit d'une narration qui n'est pas une action, au sens où elle n'est pas faite pour être jouée scéniquement, mais qui est comme un long poème en prose qui décrit de manière très simple, sans pathos, ce qui se passe effectivement sur la toile. Et la deuxième fois où Maeterlinck s'est penché sur l'œuvre de Bruegel, c'est beaucoup plus tard dans sa vie, c'est quand il a écrit une pièce de théâtre qui est très connue, qui s'appelle Les Aveugles. Cette pièce qui est réputée injouable et immontable, tout simplement parce qu'elle elle dure une quarantaine de minutes, c'est un mauvais format, ça ne permet pas de faire un spectacle. Et surtout, il y a 13 rôles, dont un mort, c'est-à-dire quelqu'un qui ne bouge pas du tout. Et parmi ces 13 rôles, il y a aussi une personne qui a une réplique. Bon, les 12, hormis le mort, les 12 autres ne peuvent pas bouger, sont aveugles et ne peuvent pas faire état de bon de toute la superbe bon qu'on pouvait imaginer que souhaitaient montrer les comédiens de l'époque où Maeterlinck écrivait et contre lesquels il était contre toute cette emphase. Donc il s'agit de quelque chose qui fonctionne à rebours de l'action scénique traditionnelle. Il se passe rien, quasiment rien, et en fait on est beaucoup plus proche de ce que sera l'œuvre de Beckett que du théâtre de l'époque. Alors, je n'ai pas cité la source. La source, certains l'auront imaginé, c'est la parabole des aveugles, qui est une toile qui, en fait, n'a que peu de rapport direct avec cette action scénique, puisque, si vous l'avez dans la tête, cette toile, c'est 4 ou 5 aveugles qui marchent et qui se tiennent l'un après l'autre avec une canne, et le premier est en train de tomber. Il est en train de tomber dans un ravin, et donc tous les autres vont tomber avec. Et bien entendu, c'est une parabole. Et ce qu'en fait Maeterlinck, un peu comme Bruegel faisait une transposition de l'Évangile selon saint Matthieu, c'est aussi une transcription à ce moment de l'histoire de notre culture, de l'histoire de notre civilisation, où Dieu et la puissance et l'importance de Dieu est en train de s'estomper. C'est donc une interrogation sur l'absence de Dieu, la mort de Dieu, on pourrait dire, et cette espèce de pouvoir qui disparaît et qui donnait du sens et qui tout d'un coup nous laisse absolument désemparés et forcés nous-mêmes sans moyen de trouver du sens à tout ce qui se passe, à tout ce qu'il y a autour de nous. Alors autant les aveugles sont une réflexion sur cette question, autant par contre le massacre des innocents est une réflexion sur la barbarie, la guerre, la manière dont les enfants sont traités dans ces situations. Donc on voit là deux thèmes qui sont des thèmes universels de tout temps, et c'est ça bien entendu qui m'a intéressé de réunir. Donc dans ce spectacle, de quoi il s'agit de réunir ensemble ces deux éléments comme en quelque sorte, Maeterlinck était là devant nous et était en train d'imaginer ces deux textes. Et donc un comédien, Bruno Raffelli de la Comédie Française, va jouer tout le texte de la pièce de théâtre, les 12 rôles, presque 10, 13, puisqu'il y a donc un personnage mort, mais il va aussi jouer les didascalies, c'est-à-dire toutes ces indications scéniques qui nous expliquent en fait ce qui se passe. Bon, la manière dont c'est réalisé scéniquement, c'est que nous essayons de mettre le public autant que possible immergé dans le son et dans l'image. Et nous inversons dans la première partie, dans les aveugles, nous inversons la situation des aveugles, c'est-à-dire que nous ne voyons pas véritablement les aveugles, nous ne voyons qu'une image qui évoque un aveugle à chaque fois qu'il parle à un endroit différent de l'espace. C'est-à-dire que donc le comédien qui joue Metternich joue aussi les 12 autres rôles, et à chaque fois qu'il joue un rôle différent, son visage est transformé avec ce que j'appelle un masque, en l'occurrence, mais un masque numérique, un masque fait par ordinateur. Sa voix aussi est transformée pour l'adapter et la faire correspondre à travers donc une forme de masque vocal au caractère du personnage. Et elle est aussi déplacée dans l'espace pour que elle soit localisée différemment. On prend cette expérience qui est une expérience historique de Metternich et on la transpose avec les outils qui sont les outils contemporains, c'est-à-dire le traitement de l'image, le traitement du son, pour créer une forme qui est une forme différente, mais qui, je l'espère, est fidèle à l'esprit qui était celui de Metternich.
Deux songes de Metternich d'après Bruegel, c'est dans le cadre du festival Les Musiques le lundi 21 mai, je crois, à 20h30, 21 et 22 mai. Cécile Guigny, Play in C, c'était au début, à l'ouverture du festival Les Musiques, mais je crois que vous êtes en train de travailler sur un nouveau projet, cette fois-ci autour des compositions procédurales. Peut-être quelques mots sur ces projets en cours.
Oui, j'aimerais... En fait, ce serait plus un travail de recherche. J'aimerais vraiment essayer de collectionner, de collecter et d'analyser les compositions faites à partir de machinerie ou de procédés. Voilà, c'est fascinant, ça va de... D'ailleurs, dans mon projet, on a une passerelle avec le concert pour 100 métronomes de Ligeti, donc un artiste plasticien, comme moi, a inventé une machinerie pour pouvoir jouer une œuvre qui est très rarement jouée par Ligeti, par exemple. Une œuvre de Ligeti qui est très rarement jouée. Voilà, donc c'était un petit peu pour étudier les façons dont les artistes se travaillent et mettent des procédés, des procédures. Voilà.
Le Festival des Musiques s'achève aujourd'hui. Il vous reste encore une dernière chance d'aller voir des concerts et des spectacles. Toutes les informations sont sur le site d'UGMEM, www.gmem.org.
Mesdames, Messieurs.
Et après
537 représentations.
La vie et le roman, c'est différent.